L'écho de Pâques, une émission spéciale pour vivre un accompagnement spirituel chez soi en temps de confinement.
Très heureux de vous retrouver, chers auditeurs, en ce jeudi pour cette émission L'écho de Pâques. Cette semaine, nous sommes avec Claire Bressolette qui nous accompagne et avec qui nous faisons connaissance. Bonjour Claire.
Bonjour.
Vous êtes donc, pour rappel, pour ceux qui n'auraient pas suivi les trois premières émissions de ces lundis, mardis et mercredis précédents, vous êtes donc célibataire, professeur de français, fondatrice d'une association appelée Culture au Village et organiste. Claire Bressolette, ce confinement, chacun le vit de manière différente. Vous me disiez en préparant l'émission que vous le vivez en étant relativement privilégié puisque vous avez de l'espace, vous vivez dans une grande maison et puis avec de la verdure. Pour autant, vous êtes seul.
Oui.
Donc c'est là-dessus vous rejoignez, je pense, un certain nombre d'auditeurs. Comment vous nous parleriez de ce drame quelque part que l'humanité traverse ? À vous entendre, vous y voyez aussi un appel.
Tout à fait. Alors, j'y vois un drame, et ça, c'est vrai que, au plan très concret, ne pas pouvoir aller voir les gens qui sont seuls, qui sont malades, qui souffrent dans plusieurs domaines, c'est douloureux. On a enterré Jean-Claude Guidarini vendredi, la semaine précédente.
Donc, un grand organiste, toulousain.
Tout à fait.
Qui a été médaille d'or du Conservatoire national de la région de Toulouse.
Et puis, une véritable oreille. En facture d'orgue, il a donné des conseils absolument remarquables. Et donc, c'était étrange, comme cérémonie, 20 personnes dans la grande nef de la basilique Saint-Sernin. Un hommage, bien sûr, rendu par ses amis organistes au grand orgue. Voilà, donc une souffrance réelle par rapport à des gens qui commencent à avoir faim à cause de la pandémie, par rapport aux questions d'une deuxième vague. Donc ça, c'est une douleur. Comment je l'ai vécu ? Toujours pareil. Je disais dans la première émission qu'il s'agit de vivre le présent du présent, une sorte de mise en abîme. Je me suis dit, mais je vais m'isoler encore plus. Et j'ai voulu, comme c'était la Semaine Sainte, habiter dans une petite cabane en bois, un abri de jardin en fait, au fond du jardin. Et depuis, je ne le quitte plus, parce que c'est un endroit merveilleux où il n'y a rien. Un lit, une table, une chaise, deux livres et l'électricité. Ce qui compte, parce qu'on peut quand même un peu lire. Voilà. Et je suis très heureuse parce que ça permet de, concrètement, de manière incarnée, de faire le confinement dans le confinement et de dire la cellule intérieure, c'est le lieu de la prière. Et là, on refait le lien avec l'émission précédente. C'est le lieu de l'horizon et cet endroit, cet espace m'a beaucoup aidée. Du coup, j'ai navigué entre l'ermitage, j'allais dire, la maison où je travaille. J'ai fait du piano, j'ai fait des conférences, des articles, voilà, du ménage. Et l'église, que je vais ouvrir à Offiac-Tolosan, 1 heure, 2 heures dans la journée, ou 5 heures pour le vendredi saint, selon les appels de la liturgie.
Alors donc, c'est donc un fléau, et ça vous le reconnaissez. Vous dites aussi que vous y voyez un appel. Alors vous y avez vu un appel pour vous, et puis votre tempérament et votre générosité donc vous ont fait épouser quelque part un peu, j'allais dire à l'extrême, ou en tout cas de manière radicale, donc cet appel à une certaine intériorité. Vous vouliez parler aussi, je crois, de l'ennui. J'ai souvenir de, c'est pas pour faire pédant, mais de Jacqueline de Romilly, qui est donc une grande spécialiste de la Grèce et membre de l'Académie française, qui avait l'habitude de dire régulièrement dans la presse, quand on l'interrogeait, qu'il fallait redécouvrir les vertus de l'ennui. J'aimerais que vous commenciez par ça. Pourquoi est-ce que vous souhaitiez parler de l'ennui ?
Parce que l'ennui est fécond. Un enfant qui s'ennuie le mercredi après-midi, qui va voir sa maman, je m'ennuie, eh bien, il va être fécond. Il va s'amuser avec deux bouts de bois, avec de la pâte à modeler, parce qu'il n'aura pas le jouet ad hoc. Il va créer. L'ennui est le terreau de la création et du coup, de l'expropriation de soi. Parce qu'on va sortir de soi, et l'expropriation ultime de soi, c'est le dialogue avec Dieu. Sinon, on reste toujours enfermé en soi et l'activisme, ces fourmis, nous ressemblons à des fourmis qui courent partout. Et ça a été une de mes grandes peines de voir les propositions qu'on faisait pour remplir cet espace-temps qui était donné et faire en sorte qu'on puisse faire, du rugby dans sa baignoire ou de la natation sur son skate dans le couloir, dans son appartement. Oui, oui, bien sûr, des émissions ont été proposées à la télévision. Oui et non. Qu'il y ait des conseils pour que les gens s'orientent, mais pourquoi ne pas dire profiter de ce moment pour faire silence ? Éteignez les portables, éteignez. J'ai même un moment souhaité qu'il y ait aussi une panne d'Internet et qu'on ne puisse plus communiquer par les télétravail et Internet. Qu'on aille jusqu'au bout de cette logique où l'homme a besoin de descendre en lui-même et de se dire « mais pourquoi je vis ? Quel est le sens de ma vie ? Est-ce qu'il y a un bien commun dans ma vie ? Est-ce que je m'exproprie de moi-même pour les autres, avec les autres ?» Et c'est pour moi un appel très très fort, un appel à cette solitude, à ce silence et à cet altruisme. Alors on l'a de manière très concrète avec tous les gens des métiers soignants, pharmaciens, docteurs, médecins qui se sont démenés pour faire face à la pandémie. Mais nous tous formons la même chaîne, on n'est pas là les bras ballants à attendre de pouvoir rouvrir un restaurant ou reprendre son métier ou à y remédier avec des moyens Internet. Non, on est là pour aller plus profond que l'humanité, qu'un discours sécuritaire ou qu'un pragmatisme dans les soins. On est là pour aller vers le sens de sa vie. Et ce qui me réjouit, c'est que tout le monde, tout ce que j'ai eu au téléphone ou que j'ai pu rencontrer, mais chacun a fait un point virgule sur lui-même, finalement. Alors, parfois, il y a de la casse. Mmh. Il y a des gens qui se séparent. Mais il y a un repos qui peut-être, à mon avis, fécond.
Claire Bresselet, j'aimerais que vous reveniez aussi sur le versant dramatique. À chaque fois, je demande un aspect de ce drame que nous traversons qui vous a frappé. Vous disiez votre difficulté, votre peine à accompagner les personnes seules ou souffrantes. Récemment, le gouvernement justement a levé un interdit qui est de pouvoir voir le corps, le visage des défunts. C'était donc un arrêté, je crois. C'est radical et beaucoup trop, au dire de beaucoup de monde, et en premier des soignants. Vous avez parlé de la mort de Jean-Claude Guidarini, donc cet organiste de talent qui était titulaire de l'orgue donc à Notre-Dame du Thor, à Toulouse. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce drame qui vous a frappé, cette impossibilité d'accompagner en fait les mourants?
Alors, dans le cas de Jean-Claude, il a eu cette chance, je dirais cette grâce, d'être accompagné par le co-titulaire de Notre-Dame du Thor, qui était là au moment où il est parti à l'hôpital. Donc, il y a eu, j'allais dire, une grâce. Nous étions six pour la levée du corps, nous avons pu le voir. Donc, il y a eu cette grâce. Dans mon cas particulier, ce n'a pas été un drame. Le drame, pour moi, c'est plutôt au plan, j'allais dire, de la quantité sur la qualité. Je m'explique. Si on a interdit de manière un peu abrupte beaucoup de gestes humains, c'est parce qu'on a peur, parce qu'on est dans un univers de pragmatique, de statistique, qui a fait dire à un moment, s'il y a deux personnes en soins intensifs, on privilégiera les jeunes sur les anciens. Et le journal télévisé lui-même, un jour, a donné un exemple dans le journal de 20h d'un couple. Lui avait 95 ans, elle 93. Lui a été condamné, il était dans les soins intensifs, assistance respiratoire, etc. Et on a appelé donc sa femme pour dire, bon voilà, il ne passera pas la nuit. Et comme elle était elle aussi atteinte du Covid-19, elle a demandé l'autorisation de rester près de lui. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il a senti la présence de sa femme? En tout cas, au matin, il était guéri. Il a franchi ce cap et ce qui était très beau, c'est que la télévision puisse donner cet exemple qui vient justement démentir la loi de la statistique, la loi de la logique. L'humain est une valeur absolue qui n'a pas d'âge, qui n'a pas d'état. C'est une valeur absolue en elle-même et je pense que ce retour dont vous parlez sur une loi un peu trop stricte par rapport à l'accompagnement des défunts est bonne. Il s'agit de rentrer dans une logique de la qualité et pas de la quantité. Voilà, c'est pour moi, j'essaie d'analyser de manière plus profonde d'où vient le drame. Le drame, il vient de notre société pragmatique, efficace, utilitaire, qui a mis de côté finalement l'humain, même si elle le revendique en disant l'humain reste au cœur de nos préoccupations, on entend ça au moment des élections, au moment des campagnes médicales, c'est une façade, hein, c'est du commercial. Je crois que le remettre réellement, cela signifie changer de point de vue et rappeler la valeur absolue de la vie, ce que fait le pape à propos des migrants, à propos des prisonniers. Comment se fait-il que nos prisons soient pleines ? comment se fait-il qu'il y ait des sans-abri, 800 personnes qui meurent par an en France, dans la rue. Et finalement, notre société a généré la pauvreté et le pauvre devient un décor auquel on s'habitue. C'est ça qui est scandaleux.
Claire Bressalette, pour finir cette émission, comme avec chacun des invités, cette question, est-ce que ce temps de confinement forcé, et a fortiori pour vous un temps de retraite, à vous entendre, a été l'occasion d'un retour sur vous-même? Je pense que c'est le cas de chacun d'entre nous. Est-ce que vous pourriez nous partager quel a été ce retour sur vous-même?
Alors le retour sur moi-même, justement, c'est peut-être d'être encore moins dans l'activisme. Ce que je reproche aux autres, me l'appliquer. Et on est toujours trop actifs. Et les choses simples. Donc l'association Culture au Village, elle s'est dotée d'un blog pendant ce mois de confinement pour mettre des textes et des images.
Alors il faut que vous rappeliez en deux mots ce qu'est cette association quand même.
Alors cette association, elle est toute simple. Deux mots clés, qualité, humanité. Elle est dans un petit village, implantée dans la maison de famille, donc à petite échelle. Et elle veut associer le culturel et le spirituel. Voilà. Alors, elle propose 4 activités, des conférences, des concerts, des soirées qui s'appellent Soirée Troubadour. Le principe est très simple. Si vous venez, vous devez participer de manière artistique. Vous lisez un haïku si vous avez peur. Vous jouez d'une étude de Chopin si vous le pouvez. Mais chacun échange à l'auberge espagnole artistique. On ne parle pas de soi. On est ensemble autour de la transcendance qu'est l'art et qui est une nourriture et pas un divertissement. Et puis les ateliers, c'est la 4e activité qu'on propose, atelier lecture, atelier écriture, atelier reliure, atelier chant vocal. Voilà, le site culture-au-village.fr.
Alors cette précision faite, quel est votre retour sur vous-même du coup?
Peut-être changer la ligne de l'association, la rendre encore moins éparpillante et plus centrante, recueillante. L'homme a besoin de se recueillir. Alors pas de parler. Et je cherche justement comment lui donner un autre profil qui touche davantage le cœur de l'homme.
Claire Bressalette, on va vous retrouver demain pour une dernière émission. Demain, vous nous direz tous les beaux signes positifs, même si vous avez commencé à en donner certains que vous voyez, y compris peut-être les appels du Christ et de l'Église. Votre espoir pour notre société en cette période de pandémie. À demain, Claire.
À demain.